Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vais vous donner la référence. Donc, dans la deuxième lettre de Jean, l'apôtre Jean. Alors, c'est un peu original, parce que c'est un livre que n'ouvre pas très souvent. Enfin, une petite missive, on pourrait dire ça comme ça. Donc, notre lecture, deuxième épître de Jean, c'est à la fin de votre Bible, hein, bien entendu. Et le verset premier, le verset 2. Voilà, on va regarder ça ensemble et donner un commentaire à partir de ce texte. Voilà. Alors, ça commence de cette manière. L'ancien à Kyria, l'élu à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Il y a là une lettre qui est écrite à une chrétienne qui s'appelle Kyria. Et l'apôtre Jean va tout simplement déclarer cette parole en ce qui concerne cette chrétienne, cette femme. Il dira que j'aime dans la vérité. Alors, c'est sur ce thème que j'aimerais justement méditer ce soir, porter notre réflexion, parce que l'amour peut tout aimer, ou l'amour peut avoir différents objets, mais qui ne sont pas exclusivement la vérité. Et nous voyons que celui qui écrit ce passage va bien préciser que son affection fraternelle, que l'affection qu'il a pour cette chrétienne, a pour fondement, pour base, tout simplement parce que elle aussi aime la vérité. Et c'est ce qui devrait nous rassembler finalement. Les gens qui aiment autre chose que la vérité, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Qu'est-ce qu'ils peuvent aimer ? La vérité, c'est tout. La vérité, c'est tout ce qu'il peut y avoir de bien, qui procure la paix, qui apporte le bonheur. Son contraire, et nous allons justement étayer un peu notre pensée, mais son contraire, qu'est-ce que ce serait ? Ça serait l'erreur et le mensonge. Et nous voyons que Jean va dire Kyria, que j'aime dans la vérité, parce que c'est une femme de vérité, parce que c'est une femme qui aime la vérité, et lui et elle sont donc réunis sur une base qui est celle de ce qui est authentique et véridique. Alors, nous allons nous expliquer un petit peu sur cela, et il dira, mais ce n'est pas seulement moi qui aime Kyria, parce qu'elle est dans la vérité, c'est ce qui nous rassemble. Et il dira, mais ce n'est pas moi seul qui les aime, elle et ses enfants, mais tous ceux qui ont connu la vérité. Alors, si vous êtes là ce soir, autrement vous aviez certainement mille autres choses à faire, c'est que vous avez certainement une affection particulière pour ce qui est vrai. Qu'est-ce que nous ferions dans une réunion comme celle-ci s'il y avait d'autres objets ou d'autres perspectives que la vérité? Et vous savez que la vérité, qui c'est une personne. C'est Jésus. Et ce qui peut nous rassembler, ce qui est tout à fait normal, me semble-t-il, dans une église qui se dit chrétienne, c'est de pouvoir parler de Jésus. Et Jésus nous a donné, eh bien, une parole que nous avons reçue, que nous recevons et que je vous prie d'accepter et de recevoir encore ce soir, qui est une parole de vérité. C'est toujours l'apôtre Jean qui va s'exprimer de cette manière. Alors là, pas dans une lettre comme celle-ci que nous avons lue, mais dans son évangile. Il dira que la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Et là où dans un milieu quel qu'il soit, et en particulier dans un milieu qui se dit chrétien où Jésus a disparu, où sa parole n'est même plus tenue en honneur ou respectée, alors ça ne s'appelle plus une église. Ça ne s'appelle plus, finalement, du nom de chrétien. Et il ajoutera que, eh bien, il y a tous ceux qui ont connu la vérité, et à cause de la vérité qui demeure en nous, parce que la vérité, nous pouvons l'avoir un jour, et puis la refouler, ou tout simplement la renier le lendemain. Mais il nous est bien précisé, à cause de la vérité qui demeure en nous. C'est-à-dire que ce que nous entendons, ce que nous recevons, ce n'est pas tant une proclamation et des principes d'une église ou des dogmes qui viendraient de l'église évangélique de Saint-Nazaire, hein, c'est pas ça. Mais ce qui nous rattache les uns et les autres, le lieu n'est qu'un lieu de rassemblement, dont nous faisons qu'un état secondaire. Mais ce qui est important, c'est que nous avons reconnu que Jésus est la vérité, et qu'en raison de cela, eh bien, nous nous attachons à sa personne parce que nous aimons la vérité. Et ce qui fait que les uns et les autres, ce que l'on peut appeler tout simplement, raisonnablement, la communion fraternelle, c'est que nous avons quelque chose en commun, la personne de Jésus, sa parole qui est la vérité. Alors je ne voudrais pas être trop compliqué parce qu'on va donner des exemples davantage d'ici quelques instants. Et nous voyons que si cette vérité est déjà ici-bas en nous, que nous la gardions, qu'elle nous donne la paix les uns avec les autres, qu'elle nous unit dans un même amour, alors à ce moment-là, Jean dira, mais cette vérité sera avec nous pour l'éternité. Alors, on va faire par contraste maintenant. Si ce n'est donc pas la vérité, ou si les gens n'aiment pas la vérité, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment le mensonge? Ils aiment l'erreur? Ils aiment toutes sortes de choses qui sortent, finalement, eh bien, de cet espace qui est la vérité. Alors, si l'on dit ça, les gens vont être courroucés, ils vont se mettre en colère, ils vont dire, mais c'est pas normal. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est aussi encore des textes dans la Bible qui nous dit que si nous ne recevons pas Jésus et sa parole, alors nous faisons Dieu menteur et nous ne sommes pas dans la vérité. C'est assez radical hein, comme situation. Et vous me comprenez ce soir, vous qui êtes réunis, parce que vous adhérez à cette pensée de vérité. Mais si je le disais dans la rue en disant, ben voilà, vous aimez l'erreur, les gens pourraient s'en prendre à moi et de dire, mais quelle prétention ? Alors justement, quelle prétention ? C'est ça. Et je ne prétends pas finalement dire autre chose que ce que la parole nous dit, mais ça nous permet de nous examiner nous-mêmes dans la foi, pour savoir de quelle manière, et comme Paul le dira, c'est pas Jean, mais c'est Paul qui le dira, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et pour savoir si nous sommes encore dans la foi, qu'est-ce que nous faisons de la personne de Jésus et de la vérité qu'il nous a donnée? Alors on va aller un peu plus loin maintenant. La vérité, eh oui, c'est un grand mot. Hein. Aujourd'hui et à travers tous les temps, il y a des institutions qui défendent la vérité. Institutions humaines, la justice, les pouvoirs publics. Parce que finalement une société ne peut pas vivre en dehors de cela. Et nous nous apercevons qu'il y a deux sortes de vérités. Il y a la vérité de Dieu qui nous dit les choses comme elles doivent être dites. C'est pas elle qui va modifier, qui va se modifier à notre convenance, mais c'est nous qui allons changer de vie pour accepter cette vérité. Ça, c'est la différence. Et puis, la vérité des hommes, vérité politique, vérité sociale, vérité religieuse même, hein, parce qu'on va en parler, qui trouve véritablement des passages pour s'adapter à la convenance des hommes. Et on s'aperçoit que, quelquefois, c'est tellement tiré, comme on dit, tiré par les cheveux, excusez-moi l'expression, que la vérité a complètement disparu. C'est une vérité qui est acceptée dans un consensus général, mais qui n'est plus du tout la vérité. Alors, je voudrais justement prendre un autre texte maintenant, qui est quand même assez significatif dans ce domaine, parce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, je voudrais vous raconter une petite histoire qui est arrivée à un apôtre, qui n'était pas le moindre, j'ai cité son nom tout à l'heure, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va se trouver dans une situation où il va être mis en prison. Il va être jeté indignement et injustement en prison. Et la raison de cette incarcération, si on peut dire, eh bien, c'est parce que justement, il a été l'objet Dieu s'est servi de lui pour la délivrance d'une femme qui croyait dire la vérité, mais qui n'était qu'une vérité déguisée. Ça existerait, la vérité déguisée? Mais bien sûr que ça existe. Les menteurs l'utilisent tous les jours. On est confronté avec toutes sortes de choses qui fait que si nous n'y prenons pas garde et si nous n'avons pas un tant soit peu de discernement et de perspicacité, mais comment avoir ce discernement et cette perspicacité quand on ignore Jésus et quand on ignore ce que Jésus nous a dit de la vérité? Ça nous permet de faire une comparaison. Vous savez, aujourd'hui, dans notre monde par Internet, télévisuel, il y a des comparateurs partout. Vous avez remarqué, hein? Pour les prix des billets d'avion, pour ceci et cela, vous pouvez voir, hein, il y a des comparateurs partout. Et je crois que il est intéressant pour nous en tant que chrétiens de pouvoir juger non pas sur une chose, une seule chose, parce qu'on ne peut pas juger à ce moment-là, on ne peut pas faire de comparaison, mais sur plusieurs. Et en tant que chrétiens, nous avons véritablement un comparateur inimitable. C'est ce que Dieu nous dit. Sans fanatisme, sans aller au-delà, mais néanmoins, eh bien, on peut discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Et pour revenir à notre apôtre Paul, un jour il s'est trouvé dans une région, et il y a une femme qui s'est approchée de lui, et il nous est dit, dans le texte, que cette femme avait la capacité de deviner l'avenir. C'était une, comment dire, divineresse. On l'appelle esprit de Python, c'est-à-dire qu'elle avait cette faculté de dire l'avenir aux gens. Ça existe encore aujourd'hui, hein. Oui, vous avez des gens, soit avec les cartes, soit avec la boule de cristal, soit avec toutes sortes de substituts, enfin, toutes sortes de moyens, qu'il a, eh bien, les lignes de la main, par exemple, pour vous dire, voilà, il va se passer ceci et cela, hein. Et... Alors, c'est vrai que, il y a des gens qui ne se méfient pas, hein, qui se disent, eh bien, voilà, ça, c'est certainement une révélation, c'est Dieu qui me parle, ou, voilà, s'ils n'y mettent pas Dieu, en tous les cas, ils font confiance. Et c'est très dangereux de faire confiance. Parce qu'il faut savoir si ça, c'est la vérité ou si c'est l'erreur. Si ça, derrière des mots qui peuvent être donnés, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui courent, hein, dans ces cabinets obscurs et qui sont là après à dépenser beaucoup d'argent pour savoir ce qui va leur arriver, s'ils vont avoir de la chance, s'ils vont être préservés du mal, si véritablement, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va être leur fortune. Voilà, qui va faire... en sorte qu'ils vont rencontrer l'âme ou la fortune, comme on dit, hein, naturellement, leur bonne étoile en quelque sorte. Et c'est intéressant de pouvoir juger des choses. Et voilà que Paul se trouve dans cette situation, il est confronté avec une femme qui va l'interpeller directement et qui va le suivre. Et il nous est simplement raconté dans ce texte, c'est dans Actes chapitre 16, mais bon, si vous voulez, vous ouvrez votre Bible, autrement je vous raconte l'histoire. Il nous est dit que cette femme, qui avait une faculté extraordinaire, extrasensorielle, on pourrait dire, de deviner l'avenir, et il nous est simplement signifié qu'elle faisait gagner beaucoup d'argent. C'était une esclave, c'était une servante d'une grande maison, et elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres, et il nous est dit qu'elle s'est présentée devant Paul, à ce moment-là, pour quelque chose de bien précis. Et vous allez voir que, là, il faut faire attention de bien savoir faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Dans le monde commercial, avec le marketing tous azimuts dans lequel nous vivons aujourd'hui, on a intérêt de se renseigner, hein. Vous savez, il y a des gens qui vous téléphonent et qui vous disent, tiens, j'ai une bonne affaire pour vous, ceci et cela. Si vous répondez à toutes les propositions qui sont faites, vous allez être vite pauvre, hein. Ça, c'est certain. On se méfie de tout aujourd'hui, hein. Oh, j'ai eu un appel téléphonique, je ne sais pas si ça va s'avérer, mais je vais contrôler. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me téléphone en disant, voilà, j'ai été mandaté par telle société que je connais, cette société, et qui doit faire une expertise de votre appartement. Voilà. Et bon, j'ai dit, voilà, je vous donne rendez-vous, etc. Et puis, à un moment donné, je me souviens, vous allez me dire, mais je me souviens, je me dis, mais normalement, j'aurais dû recevoir une lettre avant. On me propose, et c'est les vacances. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui frappent aux portes, hein, pendant les vacances. Et ils sont très heureux quand les portes s'ouvrent pas, parce que c'est eux qui l'ouvrent eux-mêmes. Hein. Mais toujours est-il que, à un moment donné, ça m'est venu d'un seul coup, je me dis, mais j'aurais dû recevoir une lettre de cette entreprise. je n'ai rien su, mais je veux me renseigner. Ça m'est venu comme un flash, comme ça, et je me dis, il faut que j'aille un peu plus loin. Parce que c'est pas normal. Il y a des gens qui se présentent au nom de l'EDF, par exemple, hein, au nom de je ne sais quel, un organisme, et qui se proposent de ceci et cela. Dernièrement, mon épouse également a été sollicitée. Moi, j'étais pas là. Heureusement, il y avait notre fils et nos enfants qui étaient à la maison. Il n'a pas pu aller plus loin, mais Myriam l'a laissé rentrer, etc., etc. Et après, elle s'est dit, mais j'ai dû faire certainement une erreur, parce qu'il n'a pas pu aller plus loin. Mais il voulait certainement quelque chose. Vous savez, les gens, ils regardent un petit peu, et quand vous n'êtes pas là, ils reviennent. Comprenez? C'est pas que votre présence qui les intéresse, c'est quand vous êtes absent. Et on entend des choses comme ça tous les jours. Hein. Imaginez-vous. Hein. Et il y a des gens qui se sont fait déménager leur maison. Vous êtes à la réunion, n'ayez pas peur, vous allez... D'accord? Oui, mais c'est pour vous dire la vérité. Aujourd'hui, le monde est prêt à tout. Et il ne recule devant rien du tout. Vous avez, par exemple, pendant les fins d'année, les étrennes, hein, vous avez des gens qui se disent, je viens de la poste, je suis, voilà, préposé des postes et tout ça, et voilà, et puis, bon, toutes sortes de choses. On ne respecte plus rien du tout. Il faut faire attention, hein. D'ailleurs, on est mis en garde par les pouvoirs publics en disant, n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui. Voilà. Vérité. Mensonge. Les erreurs. Quelquefois, on est tellement innocent, nous-mêmes. On ne pense pas au mal. Mais si vous pensez pas au mal, il y en a qui y pensent pour vous, hein. Ça, c'est sûr. Alors voilà, je reviens à mon ami Paul, là. Et elle s'est mise devant Paul, et elle a dit des choses extraordinaires. Elle a dit, en parlant de Paul et de Sylla, qui étaient les missionnaires, qui étaient les apôtres, qui étaient envoyés par Dieu pour prêcher l'évangile, elle dit, mais ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Quand vous écoutez ça, vous dites, c'est la vérité. Paul, quand il a entendu ça, il ne pouvait penser que ce n'était qu'une confirmation de l'appel que Dieu lui avait donné, déjà longtemps auparavant, de prêcher l'évangile, et voilà qu'il y a une femme qui se présente, qui va faire en quelque sorte le porte-parole, le haut-parleur de Paul devant elle pour dire, écoutez, à toute la foule qui était autour, mais ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut, c'est vrai. Et ils vous annoncent la voie du salut, c'est vrai. Si on s'arrête là, Paul aurait pu se frotter les mains en disant, mais merci Seigneur. Merci Seigneur, t'es en train de me préparer la voie pour que je puisse annoncer l'évangile à toute cette population dans la région dans laquelle tu m'as envoyé, donc les choses sont prêtes. Il aurait pu y voir une opportunité, même une bénédiction de Dieu, figurez-vous. Oui. Vous savez ce qui s'est passé après? Bon, on va le lire. Elle fit cela pendant plusieurs jours, de précéder Paul, d'annoncer ses serviteurs qui annonçaient, enfin qui proclamaient, eh bien là, le royaume de Dieu et Jésus-Christ. Mais à un moment donné, il est dit, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, il n'a pas parlé à la femme. Il s'est retourné vers la femme, mais il a dénoncé ce qu'il y avait dans la femme. Un esprit de mensonge, bien qu'elle dise la vérité en apparence. Il dit à l'esprit, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Cette femme a été délivrée, ce qui a valu à Paul de faire quand même de la prison après. Injuste. Mais je reviens quand même sur le thème, sur le sujet. Cette femme est en train de dire des choses qui sont vraies. Serviteur du Très-Haut, c'est vrai. Il vous annonce la voie du salut, c'est vrai. Et quand on regarde après ce qui se passe, eh bien tout ça était faux. Et c'est là où il faut faire attention dans le monde dans lequel nous sommes. Et dans le monde dans lequel nous allons rentrer, où il y a tellement d'exploitation, où on abuse de la crédulité des gens, où on essaie de faire prendre, comme on le dit populairement, des vessies pour des lanternes. Excusez-moi l'expression, mais c'est ce que l'on dit. Combien de gens sont soumis à toutes sortes d'escroqueries, des fraudes, toutes sortes d'extorsions, abus de confiance. Parce que quelque part, eh bien, comme dira Jésus, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ce sont des loups ravisseurs. Et je crois que dans le monde dans lequel nous sommes, je pense qu'il y a encore une part de confiance à faire. C'est vrai. Parce qu'on va pas être des traumatisés et puis des suspicieux en train de voir le mal partout. C'est pas ça. Mais moi, je pense que quand on est chrétien, quand on connaît Jésus, quand on connaît sa parole, Jésus nous dit, soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents. Ça veut dire que nous n'avons pas à prendre tout ce qui brille comme de l'or. Et que nous n'avons pas à prendre argent comptant tout ce qui nous est dit. Et dans le domaine des choses indifférentes de la vie, telles que les affaires, telles que le commerce et toutes sortes de choses, bon, il faut avoir une appréciation. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, il faut être d'autant plus vigilant. Vous savez, les sectes, elles existent à cause de quoi? À cause de la crédulité des gens, pas l'incrédulité. C'est que les gens sont prêts à croire tout et n'importe quoi. Et il suffit de mettre un petit peu de vernis, ou un emballage pseudo-chrétien, quelque chose qui brille, où on parle de Jésus, où on parle de la Bible, et que, vous voyez, des gens qui sont en mal d'existence, qui sont peut-être aux prises avec toutes sortes de grandes souffrances, avec un passé dont ils n'arrivent pas à se défaire, et ce qui leur est présenté leur semble être la solution et la réponse et la délivrance. Alors à ce moment-là, ils y courent, sans faire attention vers quoi ils courent. Particulièrement lorsque ça se double d'occultisme. Je prends les mots de magie, de divination, comme dans notre cas, où on s'aperçoit que quelque part, bien, les gens ont tellement un besoin, tellement une soif de connaître et de réaliser quelque chose, d'une attente qui les rend malades, que dès qu'il y a, eh bien, un appât, mais derrière l'appât, il y a toujours un hameçon. Et il faut faire attention. Il faut être très prudent. Et le meilleur moyen pour le vérifier, c'est ce que Jean nous dit. Et quand il parle que j'aime dans la vérité, le besoin dont nous avons pour discerner, pour faire la part des choses, c'est d'abord nous-mêmes d'aimer la vérité. Si nous avons un tant soit peu ce mélange de vérité et de ce qu'ils sont contraires, eh bien, on se fera toujours avoir. Mais quand on aime la vérité, quand Jésus est pour nous le chemin, la vérité, comme il le dit d'ailleurs dans l'Évangile, et que là, eh bien, nous avons comme positionnement de faire des comparaisons avec les avertissements, avec les recommandations de prévoyance qui nous sont données dans la Bible, à ce moment-là, eh bien, on ne va pas se faire leurrer, hein. Alors, j'ai parlé des choses indifférentes de la vie, je vous ai cité quelques petites anecdotes, hein, voilà, qui sont propres à chacun, je suppose, hein, mais je pense que d'autant plus, quand il est question, eh bien, de la vie, de nos âmes, de la vie spirituelle. Regardez cette femme, et je reviens, il est dit ceci, mais cette femme a dit des vérités, et comme je le dis à chaque fois lorsque je fais ce genre de commentaires, 95% de vérité et 5% d'erreur, et c'est la mort. Oui. Si vous êtes là dans une proportion très grande de vérité, mais qu'à côté de ça, vous avez un poison mortel, même de 5%, même d'1%, non, c'est toute la vérité. C'est David qui dira cette parole, parce que c'est une belle prière. C'est pour ça que nous avons besoin de demander à Dieu qu'il nous vienne en aide. Seigneur, donne-moi ta vérité. Parle-moi de ta vérité. Enseigne-moi ta vérité. David dira plus précisément, mets ta vérité au fond de mon cœur. Vous êtes là ce soir? Eh bien, c'est parce que Dieu est en train de nous éduquer les uns les autres pour apprendre à aimer la vérité. C'est pas une vérité. Et si vous écoutez un petit peu autour de vous, chacun a sa vérité. Je vous dis, il vaut 4 vérités. Diront certains, mais là c'est pas très aimable, hein. Je vais vous dire vos 4 vérités, vous allez voir ce que ça veut dire. Il y en a pas 4, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, je ne sais pas, hein. Mais je pense que ce qui est important pour que nous puissions véritablement, eh bien, être comme Dieu désire que nous soyons, à la fois que nous puissions être sages, prudents, que nous puissions avoir du discernement, parce que il y a 2 grands écueils dans la vie des hommes. Il y a l'incrédulité où je refuse tout, je refuse de croire. Ça, c'est l'incrédulité caractérisée. Et il y a son contraire, la crédulité, je crois tout. Mais il y a une ligne médiane, c'est la foi. Oui, c'est la foi. Et la foi, elle nous enseigne, eh bien, à tenir compte de ce que Dieu nous dit et nous avertit. Dans un psaume, il est dit, mais C'est Dieu qui nous le dit à chacun d'entre nous. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Je te conseillerai et je te conduirai. Ce n'est pas une parole qui s'adresse à tous les hommes, ça. C'est dans le psaume 32, vous pourrez le retrouver. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que on s'aperçoit que Paul n'est pas tombé dans le piège. Il nous est dit qu'à un moment donné, à force d'entendre cette femme qui était en train de crier une fausse vérité, parce que c'était une fausse vérité, il a été fatigué, il a été irrité à un moment donné. Et à ce moment-là, il s'est retourné vers la femme, et il a chassé l'esprit qui était d'elle, et vous savez quelle était la nature de cet esprit ? C'était un esprit de mensonge qui se drapait, qui se couvrait, qui était comme une forme d'emballage pour cacher un mensonge. Mais Paul l'a vu. Et chacun d'entre nous, nous avons vraiment besoin. Si vous venez pour les premières fois dans nos réunions, c'est à vous de savoir, discerner ce qui est annoncé. Oui, vous lisez la Bible déjà. Vous priez Dieu pour qu'il vous enseigne, pour qu'il vous montre ce que c'est la vérité. Ben vous savez, nous ne sommes pas là pour faire du nombre, hein. Mais nous sommes là pour amener les gens à devenir responsables d'eux-mêmes en choisissant par eux-mêmes. Moi, je ne veux pas vous annoncer autre chose. Je ne veux pas vous dire que le centre évangélique, c'est véritablement la meilleure église de France et de Navarre, hein. Je ne veux pas vous dire que, eh bien, vous n'aurez plus de problème si, vous venez au centre évangélique, c'est pas ça, hein. Non. Mais moi, je vous mets avec des prédications toutes simples devant l'évidence que Jésus a dit qu'il était la vérité, que sa parole est la vérité, j'en suis convaincu, autrement je vous le dirais pas, hein. Ça c'est certain. Et moi je sais ce que ça peut apporter la vérité dans la vie. Ça peut vous apporter le bonheur, ça peut vous apporter la paix, ça peut vous apporter des relations avec des gens qui aiment aussi la vérité, et vous aurez ça en commun, d'aimer la vérité. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. L'église de Jésus-Christ, pas l'église évangélique, mais l'église de Jésus-Christ, elle est fondée sur la vérité de l'évangile, tout simplement. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, Paul a chassé l'esprit de mensonge qui se déguisait, finalement, sous des apparences de vérité. Et c'est bien qu'il y avait une réalité, parce qu'il nous est dit qu'il a prononcé cette parole, « Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et comme c'était une vérité, eh bien, cette femme a été délivrée. C'est-à-dire que le démon est parti d'elle. Et à partir de ce moment-là, elle ne pouvait plus deviner l'avenir, puisque l'inspiration de son fameux don, c'était pas de Dieu. C'était pas Dieu qui l'inspirait. C'est le diable. Tiens, à propos, justement. À propos. C'est intéressant que vous le sachiez. Et je ne voudrais pas faire l'impasse sur ce passage de la Bible. Quand, par exemple, dans 2 Corinthiens, il est dit cette parole, et c'est Paul là hein, qui nous le rapporte, parce que c'est un dévoilement de ce qui ne se voit pas à l'œil nu, de ce qui ne peut pas être compris du premier coup, en quelque sorte. Mais quand on s'approche de Jésus, lui, il va nous le montrer. Moi, je suis tout à fait convaincu, mes amis qui écoutaient ce soir, que si vous priez avec grande sincérité, que vous demandez à Dieu qu'il vous montre quel est le chemin, quelle est la vérité, il va vous le montrer. Parce que être sincère, c'est pas un critère. On peut être sincère dans l'erreur. On peut être sincère dans la vérité, c'est vrai. Mais on peut être convaincu et sincère dans l'erreur. Il y a bien des gens qui se réclament du christianisme et qui sont dans des sectes sans le savoir. Je voudrais pas citer, mais qui s'en aperçoivent pas. Pour eux, c'est vérité parce que bon, il y a Dieu, le nom de Dieu et tout ça. Il y a bien des hommes et des femmes qui, dans notre monde, sous le couvert d'une réunion, sont sincères, d'une religion, sont sincères. Allez demander, par exemple, à un islamique, il est sincère. Il est sincère quand il tue les autres. Ah, il sert Dieu, hein. C'est quoi? C'est du fanatisme. Et puis vous en aurez d'autres qui feront d'autres choses. Vous savez, dans ce déferlement de haine et de feu et de sang de la dernière guerre mondiale et même celle qui précédait, vous savez, ceux qui menaient la guerre, ils étaient sincères, hein, pour leur patrie, hein, je peux vous dire. À côté de ça, c'était des vies qui dégoulinaient de sang, de crimes, de haine. Ah, ils étaient sincères. Ouais, on tue. Et que ce soit dans la haine ou dans l'amour, on peut être sincère, naturellement. Mais sincérité dans la vérité, parce qu'autrement, ce n'est plus la vérité. Ce n'est plus ce qui véritablement caractérise ce que Dieu attend des hommes par rapport à ça. C'est l'apôtre Paul qui nous disait dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Je vais le lire. Il nous est parlé des hommes qui sont de faux apôtres, de faux chrétiens, on pourrait dire, de faux croyants, de faux pasteurs. Allez, n'hésitons pas, hein. Des ouvriers trompeurs, ils travaillent soi-disant pour Dieu, mais ils ne travaillent pas réellement pour Dieu, ils travaillent pour leur propre compte, en quelque sorte. Et ils sont déguisés en apôtres de Christ. Déguisés. Voyez, tous les superfuges, tout le pseudo est réuni. Ça paraît être, mais ce n'est pas. Donc, il faut aller chercher plus loin. Et il dira, mais cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même s'en déguise en ange de lumière. Ah oui, vous savez l'ange de lumière dont la Bible nous parle dans l'Ancien Testament. Celui qui s'appelle Lucifer, c'est pas un mot que vous trouverez dans la Bible, hein, le mot Lucifer. Mais ça veut dire tout simplement ange de lumière. Celui qui paraît être la lumière, mais qui n'est que ténèbres. Et Satan se déguise. Comment le monde peut-il être sous la botte de l'ennemi? Parce que les gens ne le discernent pas. Comment se fait-il qu'il y a de par le monde, et quelles que soient les latitudes sur cette planète, sous n'importe quelle latitude, comment les gens se livrent-ils à l'occultisme, à la magie, au satanisme, à des choses démoniaques? Ils sont sincères, hein, mais ils sont trompés. Oui, parce qu'ils préfèrent encore le mensonge à la vérité. Parce que celui qui les inspire, eh bien, c'est l'ange de lumière, qui paraît être la lumière. Vous avez remarqué la différence? Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais là, dans le texte qui nous est dit, c'est simplement l'ange de lumière. Ah oui, ça paraît toujours bon enfant, un ange, hein. Mais il y a des anges de Dieu, et il y a les anges du diable. Des puissances mauvaises et occultes. Il y a toute une hiérarchie derrière, pour tromper les hommes, pour les circonvenir, pour les amener finalement à se tromper en pensant que c'est vrai. Et c'est ce qui donne le fanatisme. C'est ce qui donne quelque part, eh bien, des gens qui sont tellement convaincus que pour leur idole, ils sont prêts à faire n'importe quoi, mais pas en bien, en mal. Et ils se donnent une bonne conscience. Vous savez, le jour où on a crucifié Jésus, les autorités religieuses à Jérusalem, ils étaient convaincus qu'en mettant à mort Jésus, ils se débarrassaient d'un imposteur. Hein. Ah oui, parce qu'ils ne pensaient pas que c'était leur Messie. Hein. S'ils avaient su vraiment pourquoi, Jésus dira, parce qu'ils ont aimé, l'erreur plus que la vérité. Ah oui, Jésus va leur dire d'une manière très significative. Il dira ça par exemple dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, écoutez, je vais lire un peu le texte, vous pourrez le retrouver, c'est dans l'évangile de Jean, pardon, et Jésus dira à ces hommes qui sont ces détracteurs, pourtant c'était des hommes de la religion israélite, c'était des hommes qui allaient au temple, qui fréquentaient la synagogue, qui étaient des fils d'Abraham, mais il n'y en avait plus que la tradition, il n'y avait plus le cœur, l'esprit était parti, vous comprenez? Faisons attention de ne pas tomber dans une tradition, parce que là c'est très mauvais, hein. Et Jésus leur dira, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Le langage de Jésus était un langage de vérité. Mais comme ils n'aimaient pas la vérité, ils ne pouvaient pas aimer ce que Jésus leur disait. Et là, il va leur dire la vérité. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et il leur dira ouvertement, et il faut beaucoup de courage pour dire ce qu'il a dit, hein. C'est ce qui va lui valoir d'ailleurs d'être crucifié, hein. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et moi, je vais vous dire qui est votre père et sa nature. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'y tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Comment se fait-il qu'il ne puisse plus y avoir d'adhésion à la vérité de Jésus-Christ? Ben, c'est très facile à comprendre. Parce que quand on n'aime pas la vérité, on ne la supporte pas. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui accroche à ce moment-là. Au contraire, la vérité, pour celui qui ne l'aime pas, c'est quelque chose qui va repousser, c'est quelque chose qui va le dégoûter en quelque sorte. Et vous savez pourquoi? Parce que la vérité met en lumière ce que nous sommes. Et nous avons le choix de deux choses. Soit nous allons nous incliner devant la vérité, et cette vérité nous allons dire tout simplement, « Eh bien, je l'accepte. » À ce moment-là, Dieu va commencer à nous travailler, il va commencer à nous vider de nos idées préconçues, de toutes sortes de conceptions que nous avons qui étaient des conceptions fausses et qui vont devenir de plus en plus fausses à nos yeux au moment où la lumière de la vérité va venir dans notre cœur. C'est comme ça que les choses se sont faites. Moi, j'ai vécu pendant une vingtaine d'années dans une religion. Aujourd'hui, je peux apporter un jugement, non pas sur les hommes qui étaient dans cette religion, mais sur la doctrine de la religion dans laquelle j'étais enfermé. Une religion qui culpabilise à mort. Une religion d'une imprécision pas possible. On ne sait jamais si on est perdu, si on est sauvé. Si on fait le bien, si on fait le mal, puisque le bien a été appelé mal et le mal l'a appelé bien. C'est toute une transposition des choses. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, eh bien, il n'y a qu'une chose qui peut compter. C'est la prière de David, quand il dira, mets au fond de mon cœur la vérité. Si nous demandons à Dieu qu'il mette au fond de nos cœurs la vérité, il va la mettre. Tout ce que vous demanderez en priant, et surtout la foi, la vérité, la paix, mais il va nous le donner, puisque c'est le bien le plus précieux. Ouais. Si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, je me laisserai trouver par toi, je t'exaucerai dans la prière que tu fais monter. Et ce soir, c'est important. Si nous prions pour que Dieu nous révèle sa vérité, la vérité, la sienne, il va le faire, hein. Il va pas vous la cacher. Il va vous la donner, cette vérité. Et à partir du moment où cette vérité, c'est la lumière, eh bien, nos yeux vont s'ouvrir. Et ça va être quelque chose de formidable. C'est l'expérience de la nouvelle naissance. Tout simplement. Ah! Je ne savais pas où je croyais savoir, mais maintenant, sans que nous devenions pédants et orgueilleux, parce que tout ça, ça vient pas de nous, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. C'est ça la différence. Alors, on a vu cette femme, qui donne un message qui a l'apparence de la vérité, mais qui est un message faux, un mensonge, et dont elle va être dévoilée et ensuite délivrée. Nous avons l'histoire qui nous est rapportée par l'apôtre Paul dans Corinthiens, où il était question justement d'un ennemi, où les origines sont dévoilées de ce qu'il peut y avoir derrière les apparences, et où il nous est dit que c'est un ange de lumière, il se déguise en ange de lumière pour séduire les hommes. Et puis là, nous avons également dans ce passage l'auteur qui est dévoilé, où Jésus dira à ses détracteurs, mais vous avez pour père le diable. Parce que si véritablement vous aviez Dieu pour père, et c'était pourtant des hommes éminemment religieux, mais on peut être religieux et véritablement ne pas aimer la vérité. Hein. Ça, c'est sûr. Se conforter un petit peu dans nos traditions, dans nos façons de vivre et nos façons de voir. Et Jésus dira, mais celui qui est derrière, il est menteur, il est meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité. Et c'est à nous de choisir et de discerner ce qu'il convient. Et puis je termine. Il y a une proposition d'un secours et d'une aide précieuse que Dieu nous donne. C'est tout simplement dans un autre passage où il est question, là, toujours l'apôtre Paul. Il nous est parlé des derniers temps, les temps de la fin, les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, où on parle de vérité, on parle de justice, on crie haut et fort à tout cela. Mais qu'en est-il exactement? Eh bien, il nous est dit que dans ces temps de la fin, ce qui pourrait correspondre à ce que nous sommes, ce que nous vivons, il nous est dit que l'apparition de l'homme du péché, qui est appelé l'impie, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Faisons bien attention. Les séducteurs, il y en a toujours eu. Des gourous, il y en a toujours eu. Très, quelquefois, très déguisés. En utilisant le couvert de la religion. Voire même le couvert du christianisme, voire même utilisant les paroles de Jésus. J'ai eu l'occasion de regarder quelque chose dernièrement où je vous dis que j'ai été véritablement choqué sur un thème particulier de ce que peut attendre, de ce qui peut menacer l'Église chrétienne dans les temps qui vont venir. De voir des hommes qui sont des impies notoires, je dis bien, avec une doctrine, avec des dogmes, avec des enseignements théologiques, qui normalement sont censés s'appuyer sur les paroles de Jésus, sur la personne de Jésus, sur le salut de Jésus, sur le Saint-Esprit que Dieu donne, parce que vous savez qu'il nous est dit que le Saint-Esprit, c'est le Consolateur qui nous conduira dans toute la vérité et qui nous rappellera les paroles de Jésus. Donc, dans le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir d'erreur. Et de voir que la manipulation était tellement habile, tellement subtile, en utilisant des versets bibliques. Mais Jésus y est passé dans les tentations au désert. Hein. Le diable lui a servi des versets bibliques. Hein. Et Jésus n'a pas marché. Et de voir comment, avec beaucoup d'habileté, beaucoup de force oratoire, avec des mots choisis, même des chrétiens de nos milieux sont prêts à accepter l'inacceptable. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais accepter l'inacceptable, retourner à des choses que nous avons déclarées comme étant fausses, nuisibles, toxiques, et même des doctrines de perdition. Alors, on regardait ça avec mon épouse, je me suis dit, il n'y a qu'une réponse à tout ça. Il n'y a qu'une réponse. Pourquoi les gens adhèrent-ils à de tels mensonges, à de telles choses aussi grossières? Surtout quand on est chrétien et qu'on connaît ce que Jésus nous a dit. Eh bien, la seule chose qui puisse permettre le mensonge de s'installer, de déstabiliser, de faire tomber des enfants de Dieu, des chrétiens, hein, pas de nom, mais des chrétiens de cœur convertis. Eh bien, c'est tout simplement parce que la vérité a tellement diminué dans les cœurs, dans les consciences et dans les vies, qu'à ce moment-là, eh bien, n'a plus la force de se défendre. C'est-à-dire qu'on n'aime plus autant la vérité. Dans notre texte, il nous est dit que dans les derniers temps, par la puissance de Satan, il y aura toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers, toutes sortes de séductions, mais qui seront la chute, la pierre d'achoppement de tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y a deux choses dont nous avons besoin, plus que tout, c'est l'amour de la vérité, alors Dieu nous donnera son esprit de vérité. Et plus on marchera dans la vérité, plus on comprendra, plus on marchera dans la lumière, et l'erreur ne pourra plus, finalement, la séduction ne pourra plus avoir une influence sur chacun d'entre nous. C'est pour ça que, quand dans la Bible, il nous est dit « mais soyez fermes », marchez droit, résistez au diable, parce que il est là comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Mais les plus grandes défaillances que nous puissions avoir, c'est au niveau de nos pensées, c'est au niveau de nos sentiments, c'est au niveau de notre esprit. Et là, je peux vous dire qu'il tape fort, hein. Il se gêne pas. Il n'y a rien de plus déplorable quand le meilleur devient le pire. Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est d'avoir bien commencé et mal finir. Le Seigneur a appelé un peuple. Il a appelé des hommes et des femmes à devenir ses enfants, ses fils et ses filles. Où Jésus nous dit, maintenant, quand vous adressez à Dieu, ce n'est plus à Dieu que vous adressez, c'est à votre Père qui est dans les cieux. Il a fait de nous un peuple, des hommes transformés, des hommes changés. Et comment avons-nous changé? Comment avons-nous cru? Sinon que nous avons entendu sa parole et nous l'avons acceptée comme la vérité. Et cette vérité, il faut la garder. Vous savez qu'aujourd'hui, comme toujours, mais plus aujourd'hui que peut-être hier, vous savez qu'il y a un avion qui a dégringolé, là, on l'a descendu avec un missile. Vous avez vu comment c'est pitoyable de voir les hommes, les pays sont en train de se renvoyer le... Alors il y en a bien un qui sait, hein, de toute façon. 98 morts, hein. Alors on dit c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur, mais il y avait quelque chose derrière, etc., etc. Vous vous rendez compte, les hommes de pouvoir qui sont en train de mener le monde actuellement sont en train de se chamailler autour de choses. C'est lui, c'est pas moi, c'est ceci, c'est cela, etc., etc. Mais c'est pitoyable. Vous savez ce qu'il y a derrière ? Ouais, tant pis si je vais en prison demain. Moi, je crois qu'il y a le diable qui manipule, qui est en train de tripoter les hommes. Et vous savez, son but, c'est d'exciter la colère et la haine pour que nous rentrions dans quelque chose d'effroyable, dont on ne veut pas voir l'évidence, mais qui viendra tôt ou tard, mes amis, parce que nous sommes en train de construire la tour de Babel. Et la tour de Babel, Babel, ça veut dire confusion. Et en voulant fuir la vérité, en ne voulant pas regarder les choses en face, puisqu'il y a un délitement sur le plan de tous ces pouvoirs, au niveau politique, au niveau moral, au niveau social, tôt ou tard, ça va nous rattraper. On peut pas jouer avec le feu, c'est pas possible. Jésus nous dit, quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres parce que je suis la lumière et parce que je vous ai dit la vérité. Vous savez, nous sommes en danger actuellement, hein. Mais on a toujours été en danger. Maintenant, gardons notre conscience. Et s'il y en a un qui doit être notre chef, qui est notre roi, qui est notre sauveur et le seigneur de notre vie, c'est Jésus. Alors lui, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui faire confiance. Que le Seigneur nous aide ce soir. Et je termine par cette dernière parole. Quand Jean dira, comme nous l'avons commencé, et ça c'est un éloge à la communion fraternelle de ceux qui s'entendent sur la personne de Jésus et de ce que Jésus est la vérité, il dira, mais que j'aime dans la vérité. Alors, pour nous, demandons à Dieu qu'il nous donne l'amour de la vérité et d'aimer en vérité et pas selon les apparences. Que Dieu nous aide ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. Et on va prier quelques instants. Et je voudrais que cette prière elle soit véritablement une prière solennelle pour que Dieu vraiment fasse quelque chose dans nos vies et qu'il nous garde, parce que c'est ça ce qui va nous garder. C'est la vérité qui nous gardera. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que nous avons prononcé 100 fois ce soir un mot qui est celui de vérité. Seigneur, moi je me suis pas présenté pour parler parce que en prétendant que je suis ou nous sommes la vérité exclusive. Non, Seigneur. Avec cette modestie et dans notre faiblesse, nous voulons croire que en nous approchant de toi, nous nous approchons de la vérité divine, celle révélée aux hommes depuis des siècles et des siècles, mais dont beaucoup d'hommes ne veulent pas parce que, Seigneur, cette révélation de vérité les met mal à l'aise. Elle dévoile, en effet, des choses qui ne sont pas bonnes à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils préfèrent rester dans les ténèbres, rester dans l'ombre, de peur que leurs œuvres soient manifestées devant tous et qu'ils puissent en éprouver de la honte, donc le discrédit, perdre leur réputation. Mais Seigneur, ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, vous tous qui êtes fatigués de jouer le double jeu. Tous qui êtes fatigués de jouer la comédie. D'être, comme Jésus le dit, à cette catégorie d'hommes de son temps, hypocrite. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander, dans ta bonté, dans ta fidélité, que tu nous donnes d'être vrais. Vrais avec nous-mêmes, vrais avec les autres, vrais avec tout le monde. Même avec nos ennemis, même avec nos adversaires. Parce que si nous prenons leur façon de faire, eh bien nous serons les premiers perdants. Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous cet honneur d'être dignes, de pouvoir regarder les choses en face et de conserver dans notre cœur, eh bien, la vérité qui est en Jésus. La vérité qui est en Jésus, c'est son évangile. La vérité qui est en Jésus, c'est sa parole, oui, qui nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, tu nous as dit. Eh bien, qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, dans notre faiblesse. Nous ne sommes pas plus forts que les autres. Nous ne sommes pas plus malins que les autres. Nous ne sommes pas plus intelligents que les autres. C'est vrai, Seigneur. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons besoin, comme David te le disait, eh bien, enfonce dans mon cœur la vérité. Oui, Seigneur, mets dans mon cœur la vérité. Rends-moi vrai, Seigneur, de plus en plus vrai. Et ainsi, Seigneur, que nous puissions réaliser, Seigneur, que tu marches devant nous, tu nous fais marcher sur un chemin de droiture, de rectitude, un chemin qui nous conduit vraiment, Seigneur, et bien là, dans l'éternité, parce que ce chemin-là, celui de l'éternité, il est fait de justice et de vérité, et nous t'en bénissons et nous te remercions. Bénis-nous ce soir, accorde-nous ta grâce, donne-nous d'aimer la vérité, envoie ton esprit de vérité dans chacun de nos cœurs. Je te le demande si nous prions cette prière, et tu vas nous exaucer, puisque c'est le grand désir du cœur de Dieu d'avoir devant lui ces créatures qui aiment la vérité. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.